La parabole du semeur est l'une des deux seules paraboles de l'Évangile qui soit expliquée par Jésus lui-même. Donc elle devrait se passer de tout commentaire et je devrais simplement ne pas prêcher et l'explication de Jésus est claire, elle devrait suffire. Simplement, d'abord, je ne suis pas d'accord avec cette explication que donne Jésus. Je crois qu'elle n'est pas bonne. Et ensuite, je ne crois pas qu'elle explique, je crois qu'elle complique tout. Alors quand je vous dis ça, ce n'est pas blasphémé par rapport à notre Seigneur, mais par rapport à ce que disent d'abord un certain nombre de spécialistes de la Bible qui considèrent que l'explication que nous avons dans l'Évangile n'a jamais été prononcée par Jésus, mais a été ajoutée plus tard, je dirais au moment du commencement de l'Église, et que donc elle serait tout à fait apocryphe. Il est vrai que cette explication pose un vrai problème. D'abord, par rapport à ce que Jésus dit aux disciples, juste après la parabole, quand les disciples disent « on ne comprend rien à ta parabole », et Jésus leur dit « ben écoutez, c'est prévu, c'est pour éviter que les gens entendent et comprennent, voient et se convertissent aussi sec ». Parce que ce passage très complexe, mais en gros, quoi, je crois que ce que veut dire Jésus, c'est que justement pour découvrir la présence de Dieu, il ne suffit pas d'entendre un message clair dont on pourrait dire « j'entends et donc je suis d'accord, donc je suis converti ». La conversion, la relation à Dieu n'est pas le fait simplement d'entendre un discours et d'être d'accord avec ce discours, c'est une recherche et un questionnement. Et par conséquent, je dirais qu'une parabole est faite pour être compliquée et pas claire, pour nous forcer à nous questionner, à nous remettre en cause, parce que justement la conversion du cœur, c'est un questionnement, c'est un cheminement permanent. Et ce n'est pas simplement d'écouter un dogme et de dire oui, et auquel cas on serait sauvé. Par conséquent, pour trouver, il faut ouvrir ses oreilles, il faut aiguiser son intelligence. Il ne suffit pas de l'entendre et d'être d'accord avec une explication, mais il faut être dans une démarche permanente qui, elle, va nous convertir et nous vivre, et nous faire vivre. Autrement dit, ce qui nous sauve, ce n'est pas le message de la parabole, comme si la parabole avait un message, une morale, comme les fables de La Fontaine, si vous voulez. Ce qui nous sauve, c'est le fait d'entrer dans la parabole et de se questionner, d'être interrogé, de se remettre en cause, de réfléchir. C'est ça qui nous sauve, ce n'est pas le message lui-même. Sinon, il suffirait de remplacer les paraboles par des explications claires, ce serait plus facile. Et donc la question, c'est pourquoi Jésus, là, donne-t-il une explication et donc fait le contraire du sens logique de la parabole? Je vous l'ai dit, on va y revenir, mais il y a deux solutions. Soit cette explication est apocryphe, elle n'a pas été dite par le Christ, soit en fait, et ce que je crois, elle ne fait que compliquer les choses encore un peu plus, et nous allons le voir. Mais donc, dans un premier temps, mettons cette explication de côté. Vous savez, où Jésus dit le grain qui est semé, c'est la parole, et donc il faut écouter la parole avec constance pour donner des bons fruits. Voilà, c'est la morale que l'on enseigne d'habitude. Mais oublions cette explication et cette idée que le grain doit être la parole, et à ce moment-là, la parabole du semeur devient une des plus belles choses de l'Évangile. Et peut-être, je dirais, un des textes les plus évangéliques et les plus proches du message profond de la bonne nouvelle du Christ. C'est que, bien sûr, dans la parabole, dans une première approche en tout cas, on peut imaginer que le semeur c'est Dieu et que par conséquent nous sommes la terre qui recevons de Dieu quelque chose. Et à la question que je vais vous dire, demander en disant « qu'est-ce que Dieu sème ?» Si on oublie la question de la parole, je vais dire « mais en fait, là chacun va répondre différemment ». Qu'est-ce que moi je reçois de Dieu? Eh bien ça, chacun va dire quelque chose de différent parce que tout le monde n'a pas les mêmes grâces, je dirais les mêmes chances dans la vie. Et nous avons tous des chances imméritées, c'est-à-dire des grâces, des choses qui nous sont offertes et que les autres n'ont pas. Eh bien, on pourrait dire que ces graines semées par le semeur, ce sont toutes ces grâces de notre vie. Et du coup, le message est assez simple et assez beau, c'est de dire... ces grâces de votre vie, toutes ces chances de votre existence, eh bien, vous avez deux choses à faire. La première, c'est d'abord de vous en saisir, de les prendre et de les accepter. La bonne terre qui va donner du bon fruit, c'est celle qui va prendre le grain, qui, j'allais dire, qui va s'en nourrir jusqu'à détruire ce grain, qui ne restera pas une chose comme un chef-d'œuvre qui doit rester éternellement, mais ce grain va être mangé par la terre et va donner naissance à quelque chose qui va en donner encore plus. Et donc, premier message, je dirais pas très calviniste, les joies de votre vie, premier devoir, profitez-en. Profitez-en. Vous avez une grâce, votre devoir de chrétien, c'est de jouir des chances de votre vie, d'en profiter sans culpabilité et simplement de dire j'ai une chance, j'en profite et je m'en nourris, je la prends en moi. Et que cette grâce vous fasse grandir de l'intérieur, vous rende tellement joyeux et tellement plein de grâce que cette grâce puisse déborder et rayonner jusqu'à ce que vous en redonniez aux autres, jusqu'à 10 fois, 30 fois, 100 fois. Voilà le message, simplement profiter de ce qui est donné et d'être capable, pour s'en nourrir, et d'être capable de rayonner. Le message alors est à peu près le même que celui de la parabole des talents. Vous savez, l'un reçoit des talents, et bien il les multiplie, et le mauvais serviteur, c'est celui qui prend le talent, n'y touche pas, surtout pas, n'y touche pas, et le rend comme un bien sacré, et ensuite en disant « je n'y ai pas touché, je te le rends », et Dieu dit « mais lui, m'embête, foutez-le dehors, et puis c'est tout, c'est pas la logique ». La logique de la chose, c'est d'accepter avec naturel et simplicité les joies, les grâces, les chances de votre vie, et que ce soit le carburant intérieur qui vous permette d'en redonner autour de vous. Donc voilà, cette parabole est merveilleuse, et il y a encore d'autres beaux messages que nous allons voir au passage. Simplement, il y a un problème, bien sûr, c'est que ça semble un peu déterministe. Il y a une bonne terre, une mauvaise terre, et un endroit pierreux, et dans la parabole, l'endroit pierreux n'a pas tellement le moyen de choisir de devenir une bonne terre. Donc on pourrait dire c'est comme ça et voilà. Mais il ne faut pas pousser les paraboles à bout. Je dirais que par conséquent, notre travail à nous, c'est d'essayer autant que possible d'être cette bonne terre. C'est-à-dire d'approfondir notre terreau personnel, d'approfondir notre capacité à accueillir justement, pour que Dieu puisse y prendre racine, que Dieu puisse y faire sa demeure et d'enlever les mauvaises herbes qui ne servent à rien et qui risquent d'étouffer cette présence de Dieu. Et du coup, vous voyez là un message absolument révolutionnaire dans le cadre de la religion juive même ou des religions en général, c'est que du coup l'enjeu fondamental de notre vie n'est pas de réaliser quelque chose, n'est pas d'accumuler des bonnes œuvres, n'est pas de progresser personnellement, n'est pas d'être dans un maximum de sainteté, mais que simplement de savoir accueillir, de savoir recevoir. Nous sommes simplement invités à être réceptifs. Et notre dignité, notre efficacité, elle réside dans la façon avec laquelle, et seulement dans la façon avec laquelle nous savons nous rendre disponibles à Dieu et à sa parole pour qu'elle agisse en nous. Donc l'homme, vous voyez, ne peut rien faire de lui-même. Et le mieux qu'il puisse faire, c'est de recevoir quelque chose de l'extérieur et de faire grandir cette réalité extérieure. Il y a là, au passage, encore un enseignement, mais il y en a plein qui sont tous tellement merveilleusement évangéliques. Un autre enseignement incroyable sur la manière avec laquelle Dieu agit par rapport à nous, c'est Dieu ne fait aucune différence entre les bons et les mauvais endroits. Et tous reçoivent la semence de la même manière. Ça, c'est absolument étonnant. C'est une affirmation très forte, si vous voulez, de la grâce. Hein. Tous sont au bénéfice de la graine semée par le semeur de la même manière. Dieu ne retient pas sa main sur les endroits pierreux pour donner plus à ceux qui seraient la bonne terre. Dieu donne sa grâce de la même manière, au bon comme au mauvais. Et là, c'est une conviction très forte que depuis la réforme, nous essayons de proclamer que la grâce de Dieu est universelle. Et que par conséquent, nous acceptons de baptiser un enfant, de bénir sans condition, de dire lui est digne, lui n'en est pas digne, lui on peut le baptiser, lui ah ben non, on n'est pas sûr qu'il soit assez bon, lui peut accéder à la communion, parce que la communion est le signe de la grâce, mais un tel, je ne suis pas sûr qu'il puisse accéder à la communion, mérite-t-il recevoir la grâce de Dieu? Lui on peut le bénir, on peut bénir dans un mariage, mais lui peut-être qu'il ne mérite pas qu'on les bénisse. La grâce et la bénédiction de Dieu sont offertes à tous. Et vraiment, nous y tenons, c'est la base, sans ça, pour nous, il n'y a plus d'évangile, il n'y a plus de bonnes nouvelles, la grâce est universelle, le semeur sème généreusement partout, dans tous les bons endroits. Et après, c'est dit dans différents endroits, même dans Matthieu 5, 45, quand Jésus dit « Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes », c'est vraiment cette notion de grâce universelle qui fait que les protestants n'ont gardé que deux sacrements, qui sont les deux seuls signes absolument universels de la grâce de Dieu, avec une institution de l'évangile et une matière visible. Que par exemple, le mariage n'est pas un signe de la grâce universelle de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés et qui sont tout à fait sous la grâce. Par conséquent, c'est pour ça que les protestants considèrent que le mariage ne peut pas être un sacrement, c'est-à-dire ne peut pas être un signe authentique de cette grâce de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'universalité là-dedans. De même pour la consécration d'un prêtre ou d'un pasteur ou autre chose. Donc la grâce est universelle, seule la réponse humaine diffère. Après, que fait Dieu par rapport à ça? Évidemment que Dieu préfère que la grâce donne de bons fruits, ça on ne va pas dire le contraire. La parabole ne le dit pas d'ailleurs, mais a priori, c'est ce que Dieu souhaite. Simplement, vous verrez, autre message fondamental de l'Évangile. Vous verrez. Autre message fondamental, c'est qu'il n'y a dans cette parabole aucun jugement, aucune punition à l'égard du mauvais terrain. Il n'y a pas un moment où Dieu dit « le mauvais terrain qui n'a pas pris la bonne graine, qu'il soit foulé par les pieds, qu'il soit détruit par un incendie, qu'il soit ravagé par les bêtes sauvages. » Mauvais terrain n'a pas donné de fruits, c'est dommage, mais il n'y a aucun jugement, aucune condamnation, aucun écart, aucune punition. Ben oui, je vous laisse l'Évangile, c'est pas moi qui l'invente, c'est la parabole du semeur qui dit ça, et je suis heureux, je vous dis une fois de plus, de voir que c'est ce que dit la parabole et je le prends au sérieux. Bon, donc il y a juste un enjeu, donner du fruit ou ne rien donner. Le mieux, oui, c'est de donner, je le pense. Et donc vous voyez qu'il y a là une belle expression de la nature du salut. Le salut, c'est peut-être ça, c'est après tout que notre vie donne du fruit, c'est tout. Donne naissance à une réalité qui nous dépasse, que notre vie soit capable de rayonner, de donner aux autres, de transmettre, et que c'est ça l'essentiel, que de ce que nous avons reçu de Dieu, et donc notre vie éternelle, elle est faite, dans le fond, de tout ce que nous avons transmis, de toutes ces graines qui sont données, et qui ne sont pas pour nous, parce que la graine produite par l'épi ne profite pas à l'épi. Donc, vous disais-je, l'explication du Christ, revenons-en, qui est donnée explicitement en Marc et en Luc, où il dit « le semeur, c'est la parole qu'il sème ». Donc, apparemment, dans l'explication, il semble restreindre le don de la grâce à la parole. Ce qui m'embête, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était, à mon avis, fondamental, et donc uniquement réduire la parabole du semeur au don de la parole, c'est quand même très dommage. Alors moi, à l'école biblique, quand j'étais enfant, on m'avait enseigné que la parabole du semeur, en fait, c'était quelque chose d'assez moral pour dire on vous enseigne l'évangile à l'école biblique et donc il faut bien écouter cette parole et celui qui écoute l'évangile avec attention, elle lui peut grandir en lui pour qu'il puisse donner des fruits de bonnes œuvres. Voilà. Donc on reçoit, recevez bien cette parole, ne vous laissez pas distraire par l'argent et les tentations de ce monde, mais que cette parole vous permette de donner des fruits formidables de bonnes œuvres dans ce monde. Explication morale sympathique, enfin même pas sympathique d'ailleurs, mais complètement fausse, totalement fausse, et qui ne convient pas du tout au texte. Et je vais vous le prouver. Tout simplement parce que dans la parabole, le grain planté et le grain recueilli est de même nature. On plante un grain et on cueille un grain. Et il n'y a pas de différence possible entre le grain planté et le grain récolté. C'est le même grain, il n'y a pas un grain divin et un grain humain. Et donc cette idée qu'on m'a enseignée, qu'on reçoit la parole et qu'on récolte des bonnes œuvres, c'est faux. C'est faux. Si on plante une parole, d'après la parabole, il faut recueillir une parole. Alors du coup, ça limite encore plus la parabole. Ça voudrait dire, il faut bien écouter le catéchisme et être capable de le réciter ensuite. Ah ben bravo. Alors là, je vais vous dire, ça ne serait pas ma parabole préférée. Je ne vois pas du tout que ça puisse être le sens de l'évangile. Ça n'a aucun sens. Alors comment s'en sortir ? Solution zéro, je l'élimine de dire texte rajouté après la mort du Christ, donc on l'enlève. Ça me semble un peu facile et je suis un chrétien naïf qui veut croire que, a priori, ce que dans l'évangile, Jésus a dû le dire, donc je veux croire que cette explication a quand même été dite par le Christ. C'est là où je ne suis pas entièrement libéral, entre guillemets, je suis sans doute un peu évangélique dans ce sens, je crois que l'évangile ne nous trompe pas. Mais ça n'empêche que j'ai quand même deux explications. La première, c'est de dire, je vous ai dit, pardon, d'abord que l'avantage d'une parabole, c'est que chacun peut entrer dedans à sa manière. Je vous ai dit, ces grains qui sont tombés, c'est les grâces que vous recevez. Mais chacun va dire, ben tiens, moi, ma grâce première, c'est ça. C'est d'être peut-être en bonne santé, c'est peut-être d'avoir une épouse ou un époux formidable, c'est d'avoir des enfants merveilleux, c'est d'avoir des amis fidèles, c'est d'avoir un métier qui me passionne, c'est d'avoir la possibilité de partir en vacances, c'est d'avoir un beau logement, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'en avoir pas peut-être. Enfin, chacun va dire sa grâce, vous voyez. Et même si j'aime cette parabole, c'est que tous les matins je peux la relire et me dire, tiens, ce matin, voilà la grâce de ce jour. Et qu'est-ce que je vais en faire ? Et chaque minute de ma vie, j'ai une grâce différente. Et donc, c'est la parabole du semeur, on doit vivre avec. Et donc, je maintiens ça. Mais là, il dit « pour vous ». Donc, ce serait l'explication limitée, particulière, pour la situation particulière des disciples qui ont étudié le Christ, qui ont vécu avec Jésus, et donc leur grâce première à eux, c'est d'avoir connu le Christ. Et donc Jésus leur dit, voilà, votre premier devoir, c'est que vous avez entendu l'évangile, donc transmettez cet évangile, si vous voulez. Donc ce serait une explication propre aux disciples les plus proches, et une invitation à transmettre la parole qu'ils auraient reçue pour que nous puissions y accéder. Donc ce serait autrement dit une explication particulière pour une situation particulière. Alors c'est vrai que nous n'y sommes pas totalement exclus. Nous, si vous êtes là, c'est que vous avez eu aussi la grâce et le privilège d'entendre cette parole. Donc vous avez aussi, de la part du Christ, le devoir de cette parole, de la retransmettre. Donc nous sommes témoins. Et le fait d'avoir été au bénéfice de la parole de l'Évangile nous donne le devoir de la partager selon notre talent, soit en parlant directement, soit par les actes, soit en partageant nos vidéos, voilà, une façon de témoigner, soit ce que vous voulez. En tout cas, nous avons un devoir d'être à notre tour porteurs de cette parole. On peut élargir encore en disant, si la semence est la parole, vous savez que la parole dans l'évangile a un sens beaucoup plus large que simplement le discours. Quand l'évangile de Jean dit « au commencement était la parole et tout a été fait par elle », cette parole de Dieu, c'est la parole créatrice de Dieu. Donc Dieu est parole. Et donc, cette parole de Dieu, c'est la manière avec laquelle Dieu se présente à nous, puisque Dieu est parole. Et donc, ce n'est pas juste un discours ou un catéchisme à apprendre, mais la parole de Dieu, c'est une parole de pardon. La parole de Dieu, c'est une parole de consolation. C'est une parole qui crée en nous un être neuf. C'est une parole qui nous donne la vie. C'est une parole de paix. C'est une parole de force. C'est une parole de joie. C'est une parole d'amour. Et donc, parole inclut, mais finalement, tout ce que je vous ai dit. Parce que les plus grandes grâces de notre vie, c'est de nous savoir aimer, de se savoir pardonner, de se savoir accueilli. Et nous sommes invités à ce que tout cela germe en nous, grandisse, pour que nous puissions re-rayonner dans ce monde d'amour, de générosité, de pardon, de fraternité, de grâce, de vie et d'espérance, de tout ce que nous recevons en abondance de la part de Dieu. Donc oui, nous pouvons effectivement être des redistributeurs de toutes ces choses et pour que nous puissions en vivre. Simplement, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose qui là revient, quelque chose d'important pour moi, qui est que le grain récolté est de même nature que le grain semé. Alors là, ça donne un message aussi assez fort, c'est que ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a pas le don de Dieu qui serait un don merveilleux et le don humain qui serait de deuxième zone. Où on pourrait dire, Dieu nous aime d'un amour divin, et ensuite, moi, l'amour que je donne aux autres, ben, c'est un amour dégradé par rapport à l'amour humain, divin, pardon. Les deux graines sont de même nature. Et donc là, l'Évangile nous dit une chose, c'est que quand vous donnez au monde de l'amour à quelqu'un, cet amour est aussi grand que l'amour de Dieu, et de la même nature. Et peut-être que même parfois, les grains que nous recevons de Dieu, où est-ce qu'ils ont été créés ? Dans le ciel, dans un nuage ? Non. Quelqu'un d'autre peut-être les a fait pousser. Et peut-être que donc ces grâces de Dieu que nous recevons, eh bien, nous les recevons d'un autre. Et donc, peut-être que Dieu nous donne son amour par l'amour que nous recevons de nos proches. Le pardon que nous donnons à nos proches, c'est le même que l'amour de Dieu. La grâce que nous donnons, c'est la grâce de Dieu. Et donc, ça me donne le droit, quand je vous bénis à la fin du culte, cette bénédiction n'est pas une sous-bénédiction, c'est véritablement la bénédiction de Dieu qui est donnée. Et donc, nous avons là un rôle extraordinaire, et aussi, pour ceux qui ont parfois du mal à discerner les dons de Dieu dans leur vie, eh bien, peut-être que ces dons de Dieu passent par vos proches, ou par un ami, ou par quelqu'un, et que Dieu vous donne par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui vous donne ses dons. Alors ensuite, l'explication donnée aux disciples m'intéresse. Je l'ai rejetée tout à l'heure, mais finalement je vais m'y intéresser encore plus, parce qu'elle va encore plus loin dans le sens d'une responsabilisation. En effet, il y a un déplacement curieux qui s'opère dans l'explication donnée, c'est qu'au départ, le croyant, et vous l'avez admis sans sourciller quand je vous l'ai dit, le croyant, c'est le terrain. Bon, et les grains, c'est les grâces. Le terrain qui reçoit la semence. Mais dans l'explication du Christ, c'est très étonnant. Si on le lit alors dans le texte original, auquel je vous souhaite d'avoir accès, vous n'avez qu'à apprendre le grec, eh bien, dans l'explication du Christ, il y a une inversion. Et le croyant devient la semence elle-même. Et ça, c'est en général masqué dans les traductions. Les traducteurs ont trouvé ça tellement absurde qu'ils ont dit « c'est pas possible, le texte a dû se tromper, on va corriger ». Alors moi, j'aime beaucoup quand les traducteurs se mêlent de corriger le texte biblique. En général, ils font des idioties. Bon. C'est qu'en effet, le Christ ne dit pas « celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui est l'homme d'un instant », etc. Mais il dit « celui qui est semé dans les endroits pierreux ». C'est-à-dire que le croyant devient celui qui est semé et pas celui qui reçoit. Alors les traductions honnêtes mettent en note, il n'y a pas écrit « celui qui reçoit dans les endroits pierreux » mais « celui qui est semé ». Et ils disent « c'est un anacolute » ou « une anacolute », je ne sais pas, c'est un ou une, enfin, en tout cas « anacolute ». Pour moi, un acolyte, c'est une insulte du capitaine Haddock. En tout cas, je ne pense pas que ça explique quoi que ce soit. Il est écrit, celui qui est semé dans les endroits pierreux, c'est celui qui ne mène à rien. Terminé. Et donc, ça veut dire que dans l'explication du Christ, ça va très loin. C'est nous qui sommes semés dans le monde. Ça n'enlève pas ce que je vous ai dit. Vous savez, dans la Bible, les explications s'accumulent par couches successives. C'est nous qui sommes semés dans le monde. C'est nous qui sommes appelés à être dans ce monde une parole de vie, de paix, d'espérance, de joie et de force et d'amour. C'est nous qui sommes appelés à devenir une parole créatrice dans ce monde. Et donc nous avons la dignité non seulement de recevoir l'Évangile, de recevoir la grâce, le pardon, l'amour et la paix et la nouveauté de vie, nous avons le devoir non seulement d'être des multiplicateurs de cela, mais aussi d'être nous-mêmes, de nous semer nous-mêmes, de nous donner nous-mêmes dans le monde. Et donc nous devons accepter peut-être d'aller jusqu'à nous jeter dans le monde en acceptant de mourir pour le monde. Parce que le grain semé dans la terre se donne à la terre et est mangé par la terre. Si le grain ne meurt, dit l'évangile de Jean, il ne peut rien donner. Il faut que le grain meure pour donner naissance à une plante. Et donc nous devons aller non seulement multiplier, rayonner, c'est sympathique, là ça va beaucoup plus loin que ça, comme le Christ lui-même qui vient dans le monde et qui se donne lui-même à nous jusqu'à mourir pour nous, pour que nous puissions grandir et bénéficier de cette grâce. Et comme le Père et comme le semeur, nous n'avons pas à discerner qui est digne ou pas digne que nous mourions pour lui, que nous lui offrions notre vie, que nous le servions, que nous passions du temps pour lui. Ce n'est pas à nous de discerner qui mérite que nous lui donnions une partie de nous-mêmes, mais comme le Seigneur lui-même de la parabole, que nous puissions, semer sans distinction, comme le Christ est mort pour tous, juste et injuste. Et c'est en acceptant de donner notre vie au monde comme témoin de la grâce et de la parole de Dieu que cette grâce peut être multipliée et notre éternité est peut-être que d'autres témoins, à la suite, peuvent à leur tour se lever pour être une semence à notre place dans le monde. Mais dans tous les cas, je ne vois pas dans l'Évangile de parabole qui soit une plus forte et saisissante expression de cette grâce universelle de Dieu, de cette grâce personnelle en même temps donnée à chacun différemment, donc à chacun de mettre les mots sur ces grâces, et en même temps de fonder sur cette générosité sans distinction de Dieu, cet appel à nous-mêmes être à l'image du Christ, pour donner notre vie pour le monde, afin que le monde vive et que nous vivions par le monde et par Dieu. Amen.